9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Leïla Sebar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce dimanche matin. Nous allons parler tout au long de ce Voix au chapitre de vous, Leïla Sebar, de votre histoire, de votre vie. Et nous allons parler de La lettre à mon père, c'est le titre de votre tout dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Bleu Autour. Vous présentez Leïla Sebar, vous êtes romancière, essayiste, vous êtes née en Algérie, d'un père algérien et d'une mère française. Vous présentez plus longuement en ajoutant que c'est à 20 ans que vous arrivez en France pour suivre des études de lettres. Et justement, en parlant de lettres, nous allons parler de votre écriture autour de cette double appartenance entre France et Algérie, dont tous vos romans sont souvent empreints de cet héritage. Je dis à peu près la chose comme elle devrait être dite, Leïla Sebar, sur votre écriture, sur ce que vous écrivez depuis des décennies.
Beaucoup
de livres autour de cette double appartenance, cet héritage.
Mais je crois que j'ai du mal à écrire autrement et autre chose. Dire... Je suis née dans cette double appartenance qui m'a fait souffrir dans l'Algérie coloniale parce que d'un côté, on me disait tu es la fille d'un Fellaga et de l'autre, la fille du colonisateur.
Vous aviez moins de 20 ans, vous étiez en Algérie, vous y êtes née?
Oui, bien sûr. J'étais au collège, au lycée, à ce moment-là. Et c'était dans les murs du collège et du lycée que j'avais affaire à ce genre de questionnement.
Est-ce que vous avez porté avec douleur cette injonction et ces propos?
Enfin, bien sûr, je sais bien ce que ça signifiait, d'un côté et de l'autre. Je veux dire, c'était accusateur de la part de la communauté européenne et accusateur de la part de la communauté musulmane.
Bien sûr. Qui voyait en mal aussi cette Française, votre mère,
bien sûr,
qui épousait un Algérien, bien sûr, un Fellaga, comme vous venez de le dire.
Non, mais ça je dis, c'est à l'intérieur des murs du collège et du lycée. Bon, dans la société elle-même, je n'en souffrais pas parce que je ne sortais pas. Donc... Je ne pouvais pas en souffrir. Mais j'étais pensionnaire, c'était la guerre, et donc...
Et cet héritage, le mot héritage est un mot important parce que c'est ce qu'on porte, et qu'on va transmettre. C'est une transmission d'une histoire, on transmet des valeurs, on transmet une histoire, on transmet tout ça. C'est ce que vous avez porté, vous, longtemps? De ce qui vous a été transmis, de cette histoire franco-algérienne, on peut dire franco-algérienne, dans votre vie?
Oui, mais quand vous parlez d'héritage, c'est plus compliqué que cela. Parce que mon père, de son côté, ne m'a rien transmis de sa culture, de sa civilisation, de sa langue.
De sa langue.
Puisque je n'ai pas parlé la langue de mon père. Et moi, je ne sais pas ce que j'ai transmis à mes fils.
Oui, parce que vous n'aviez rien reçu.
Je n'ai rien reçu, mais...
Mais en même temps, en vous, il y a l'Algérie, donc à un moment donné...
Le travail d'écrivain m'a permis.
Voilà. C'est l'écriture qui vous a permis, voilà.
Ah oui. De réfléchir, d'abord, et puis de chercher, de découvrir, et peut-être de transmettre. Par exemple, mon fils aîné, Sébastien, qui est artiste peintre, répond à mes demandes quand je lui parle d'aquarelle ou de dessin. Il a fait les dessins de Isabelle l'Algérien, par exemple. Il a fait les dessins des Algériens au café, les dessins à la plume, à l'encre de Chine. Et il fait souvent les dessins ou les aquarelles de couverture de mes livres.
L'histoire, Leïla Sebar, que vous nous livrez dans ce « Lettre à mon père » qui vient de paraître donc aux éditions Bleu Autour, dont J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire et à vous retrouver dans votre vie personnelle et ce rapport que vous avez avec votre père. D'abord, l'être est au singulier. Ça veut dire que c'est tout au long de ce livre vont courir vos souvenirs, votre enfance, on vient d'en parler un peu, mais aussi cet aller-retour dans votre corps, j'allais dire, dans vos écrits, cette France et cette Algérie en héritage. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, quelques temps après sa disparition, on peut le dire, puisque c'est assez intime, mais vous nous le livrez, donc on peut parler de cet intime que vous nous écrivez. Vous avez eu envie d'écrire à votre père ce qu'il vous aura pas dit, ce qu'il vous aura pas témoigné, ce dont vous n'avez pas hérité, mais vous le dites avec douceur, parfois avec un peu plus d'affirmité, peut-être de tristesse. Voilà, il vous a pas dit, et vous lui écrivez là.
Oui, il y a une dizaine d'années, ou plus d'une dizaine d'années, j'ai publié « Je ne parle pas la langue de mon père ».
Oui. Parce que peut-être, vous avez raison de le souligner, Leïla Sebar, j'oubliais de rappeler que quand même l'être à mon père est le dernier volet d'une trilogie importante hein, dans votre littérature dont je parlais, une grande littérature autour de cette double appartenance. Et le premier titre était « Je ne parle pas la langue de mon père » et ensuite c'était...
L'arabe comme un chant secret.
L'arabe comme un chant secret.
Ouais. Oui.
Et voilà. Et ce lettre à mon père... ferme ce volet
on peut,
autobiographique.
On peut le penser de cette manière-là. J'espère que non.
Oui, parce que vous avez encore des choses à dire.
Peut-être. Mais c'est l'éditeur Patrice Rettig qui m'a dit, dans les premiers temps du confinement, il m'a dit, vous devriez écrire une lettre à votre père. Et je lui ai dit, écoutez, je n'y ai jamais pensé. Qui est vrai, je n'y ai jamais pensé. Je ne parle pas la langue de mon père, n'est pas une lettre. Et je n'ai jamais écrit et publié de lettre à mon père jusqu'à celle-ci. Et je lui ai dit, écoutez, je vais réfléchir, parce que je ne sais pas si j'y parviendrai.
Vous avez réfléchi parce qu'elle était difficile à écrire, cette page?
Non, je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. J'avais l'impression d'avoir déjà parlé de mon père dans les deux titres que vous avez cités et que, bon, c'était peut-être suffisant. Mais je me suis mise à écrire.
On vous a rappelé à l'ordre
voilà,
pour écrire une lettre à votre père. Et cette lettre, alors, du coup, elle a été écrite après sa disparition?
Ah oui, oui, oui. Déjà, je ne parle pas la langue de mon père. Je ne l'aurais pas écrit. Du vivant de mon père.
Donc, parce que c'était difficile.
Oui.
Qu'il sache ce que vous alliez écrire. Il vous l'aurait reproché, non?
Je ne parle pas la langue de mon père. Quand ma mère l'a lu, elle m'a dit.
Ne pas le montrer.
Tu n'aurais pas dû écrire et publier ce livre. Elle me l'a dit. Et. Il dit pourquoi je ne révèle pas de secrets de famille graves comme souvent, hein. Souvent dans la littérature on révèle des secrets de famille et elle m'a dit non mais tu parles de la famille de papa et je ne suis pas sûre qu'il aurait été d'accord.
Parce que parler de livrer l'intime, au sens livre justement, c'est compliqué quand même.
C'est compliqué.
Pour ceux qui sont proches de cet intime,
bien sûr,
qui vont
bien
le recevoir.
Sûr, bien sûr. Pour ma mère, ça a été difficile. Et elle m'a dit, d'ailleurs, je ne suis pas très présente dans ce livre. Alors j'ai dit, je parle de cet acte. De non-transmission de la langue arabe. Toi, tu m'as transmis la langue française dès la naissance, et pour toujours. Donc, c'est du côté du père que ça se passe, là.
Un mot sur ce qu'il vous a transmis quand même, votre père, dont on connaît son histoire. Votre père était instituteur.
Oui.
Et vous avez été enseignante aussi.
Oui, moi c'était je crois
aussi
que...
une. Non, non, mais c'est intéressant aussi parce qu'il y avait une filiation, un rapport à la littérature. Dans le livre, vous parlez aussi de des auteurs qu'il a aimé, qu'il a lu, qui rejoignent sans doute aussi ce que vous aimez dans en matière littéraire, qui sont des auteurs français ou algériens ou de même d'ailleurs. Je pense qu'il y a quelque chose
étranger
qui vous rassemble là dans l'écriture et dans ce métier d'enseigner de.
Mais les enfants d'instituteurs. En général, se retrouvent, malgré eux ou pas, je ne sais pas, en tout cas dans l'enseignement. Ah ouais. Et j'ai un frère et deux sœurs, et on a tous été dans l'enseignement. Moi, j'ai été professeur de lettres toute ma carrière, j'ai écrit en même temps, et mon frère et mes sœurs aussi.
Leïla Sebar, elle est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche et nous allons entrer dans le cœur de ce livre « Lettre à mon père » qui vient de paraître aux éditions Bleu Autour. On se retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Leïla Sebar et nous parlons de Lettre à mon père. C'est son tout nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Bleu Autour. Alors, ce Lettre à mon père, ce nouveau livre est un dialogue épistolaire avec votre père. C'est l'envie que vous aviez de vous adresser à lui dans les silences qui se sont passés avec lui tout au long de votre vie. Votre père était un taiseux. On le lit, hein. Il parlait pas beaucoup. Il vous a pas transmis. Mais de manière générale, il vous livrait pas beaucoup de choses. C'est une manière, de vous adresser à lui et d'essayer de lui suggérer, ce qu'il aurait pu voir ou entendre. Vous convoquez dans ce livre vos souvenirs en Algérie, votre jeunesse, vous convoquez le village, les paysages, la peinture, la littérature, vos amis ici, et voilà, il y a toute votre vie qui est racontée là, et votre père ne l'avait pas vu, votre vie ?
Je ne sais pas s'il ne l'avait pas vu, mon père était quelqu'un de très, très attentif, très présent, puisqu'on a toujours vécu dans la maison d'école qui était à l'intérieur de l'école dont il était le directeur. Donc, finalement, c'était lui qui était enfermé, plus que nous, les enfants. Et il sortait de son travail, il passait par son bureau et puis il venait à la maison. Donc, il était là, il était présent.
Il était présent, mais silencieux.
Présent. Silencieux. Quand je dis silencieux, c'est silencieux dans sa langue. Et dans tout ce qui concerne, dans ces cas-là, son histoire. Son histoire, l'histoire de son peuple, l'histoire de son pays. Toute cette histoire-là. Et moi, je pense que, d'une part, la situation coloniale a fait
l'empêcher.
Que ça a été compliqué pour lui. Et d'autre part, valeur de la culture musulmane, qui pour lui est importante, c'est la pudeur. Mmh. C'est la pudeur. Et donc, un père ne parle pas à sa fille de ses sentiments, de sa propre vie, de ses affects. Donc, je veux dire, il a été fidèle, disons, à cette valeur-là, que j'approuve. Hein. Moi, j'ai adopté.
Mais ça vous
ces
a manqué.
Là aussi.
Parce que si vous le convoquez dans ce livre-là à lui dire ce qu'il n'a pas pu dire, c'est une manière aussi d'avoir été, peut-être attristé de pas le. De pas avoir échangé, ou en tout cas, vous avez envie de lui dire des choses dans ce livre-là. C'est le sentiment qu'on a en lisant avec, tous ces détails, tout ce descriptif que vous adressez à votre père. On l'entend même répondre, hein. Il y a une, voilà, il y a bien un imaginaire de sa réponse.
Quand... C'est moi qui réponds à sa place.
Oui, même. Oui, je sais bien que c'est bien que c'est vous qui répondez à sa place, mais oui. C'est pour ça que je parle d'imaginaire où il répondrait, mais.
Oui.
Ou vous l'interpellez sur la langue, par exemple. Vous venez parler de la langue.
Oui, mais je ne l'interpelle pas avec hargne. Mmh. Je le questionne. Je le questionne parce que ça signifie pour moi que je veux savoir quelque chose de lui, mais pas seulement de sa personne, de tout ce qui a fait qu'il existe. Dans cette Algérie,
sa langue, mais bien l'Algérie, sûr. De manière générale, oui, bien sûr.
Et moi, je crois qu'il le comprend, mais je crois qu'il ne peut le comprendre que dans cette lettre-là, parce que je suis là.
En même temps, quand vous lui demandez, je vais lire juste quelques lignes effectivement sur son histoire. Quand vous l'interpellez, enfin, quand vous lui parlez, vous vous adressez à lui parce que j'ai le sentiment que interpeller, vous pensez que c'est une injonction, alors que, voilà, vous convoquez une discussion à, voilà, une lettre à votre père, vous parlez de, il parle de, c'est quand il parle de la langue, justement. Tu dis mon pays comme si tes enfants n'étaient pas nés en Algérie. Tu nous as rien raconté. Rien. Comme si l'histoire de l'Algérie n'était pas notre histoire. Et il répond, en tout cas vous répondez, dans quelle langue raconter ? En français, c'est ta deuxième langue, la langue de ta femme et de l'école de la République. Tu es instituteur, tu l'oublies, c'est la seule langue de tes enfants, tu n'as pas voulu, point de suspension. Voilà, la réponse qui suit, c'est j'aurais voulu raconter mon pays, l'Algérie, en arabe, et il serait votre pays, point de suspension. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Je ne comprends pas. C'est trop compliqué une autre fois. Et cette idée que c'est reporté, c'est vrai que c'est ce qui arrive aussi quand on ose, quand on retient, voilà, des sentiments et cette transmission qui n'a pas eu lieu, c'est aussi, on verra plus tard, c'est reporté.
Oui, oui. Et c'est l'attitude qu'il a aussi dans je ne parle pas la langue de mon père. Oui. Je lui demande. Et je lui demande calmement, hein. Si, quand même, fermement, mais calmement. Et il dit toujours, pas tout de suite. Voilà. C'est toujours pas tout de suite. Et à un moment donné, je sais plus dans lequel des livres, il dit, je sais ce que tu penses. Tu penses que je vais mourir et que n'auras pas la réponse. Ouais, c'est ça.
Oh, oui. Ouais. Oui. J'avais une question justement là-dessus. Parce que ce qui est aussi intéressant dans la construction du livre, c'est que c'est lettre, je le répète, c'est important, est au singulier. Donc on a l'impression que c'est une longue lettre, mais c'est des petites séquences en même temps. Mmh. C'est des temps qui vous sont revenus de raconter à votre père.
Oui, oui. À l'intérieur de la lettre,
il y a des séquences.
Il y a des épisodes particuliers auxquels je tiens. Et que je cherche à éclaircir. Mmh. Alors, je ne suis pas sûre d'y réussir, parce que c'est moi qui réponds.
Ben oui, oui.
À la place de mon père.
Parce que c'est la réponse que vous auriez voulu.
On ne saura jamais.
Ce que vous répondez est la réponse que vous auriez voulu.
Je pense, oui. Mmh. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce serait que c'est la vérité.
Mmh. Non. D'accord. On va poursuivre justement dans ce que vous écrivez, ce auquel vous êtes attaché dans cette lettre et que vous avez envie de raconter. C'est l'attachement que vous avez à l'image de l'Algérie dans son passé colonial. Et je le sais parce que nous avons eu l'occasion d'en parler au travers un ouvrage que vous aviez déjà publié. C'était ces images de femmes dans la période coloniale. Oui. Vous êtes toujours en quête de ces images coloniales, de ces cartes postales que vous avez collectionnées. Et comment est née cette intérêt, attirance pour l'image coloniale. Elle a fait partie de vous aussi, cette image coloniale.
Oui.
Donc après, vous en saisissez pour l'écrire.
Justement, enfin, c'est toujours une question qu'on me pose. Pourquoi cet intérêt pour les cartes postales coloniales ? Alors que vous devez connaître le livre de Malek Hanoula,
Le harem colonial.
Le harem colonial.
82,
il était pas mal. Le harem colonial, qui est une attaque virulente contre justement cette imagerie coloniale et ces photographes occidentaux qui regardent les de manière folklorique les hommes et les femmes de ces pays du Sud. Et moi, je n'ai pas le même regard, je n'ai même pas le même rapport, parce que je regarde ces femmes, parce qu'en général, ce sont des femmes hein, qu'on représente le plus souvent, des femmes Maroc, Algérie, Tunisie, qu'on représente sur ces cartes postales, ou dans la peinture orientaliste aussi. Et moi, je les vois comme ce que j'appelle les femmes du peuple de mon père. Je n'ai jamais vécu avec elles. Je ne les connais pas. Je n'ai jamais parlé leur langue. Mais je les ai aperçues dans les paysages, sur les collines, quand elles allaient en pèlerinage au marabout, au Kouba, des saints. Ça, je me rappelle très bien quand j'étais enfant. Et je ne savais pas qui elles étaient. Je ne le demandais pas à mon père. Mon père ne m'en parlait pas. Et je les ai retrouvées à l'image. Et j'ai cet attachement, cette tendresse pour elles. Et très souvent, des gens, enfin des personnes comme Malika Lula ou d'autres que je ne nommerai pas ici, me le reproche violemment.
Leïla Sebar, nous parlons de Lettres à mon père, c'est son tout dernier livre qui vient de paraître aux éditions Bleu Autour. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre ce dimanche matin, Voix au chapitre. J'ai le plaisir d'accueillir Leïla Sebar et nous parlons de Lettres à mon père. Ce livre vient de paraître aux éditions Bleu Autour. C'est une, pas une vraie correspondance en réalité, mais c'est, voilà, des mots, des passages de votre vie que vous aviez envie de raconter à votre père qui défile tout au long de ce livre en petit passage qui correspond à des histoires très très fortes en même temps hein, sur votre vie où vous racontez ce que vous vivez en France, ce que vous avez envie de partager avec lui. Et justement dans ce partage, on y reviendra ensuite. Je voudrais m'arrêter sur le fait que vous racontiez de manière très très intime ce lien avec votre père. Il a fallu du temps pour écrire tout cela. Du temps, non pas d'écriture, mais du temps dans votre intellectuellement, du temps dans votre corps, dans votre intellectuellement, pour écrire tout ce que vous nous racontez là, de cette histoire. C'est une autobiographie, donc voilà, il y a des choses qui sont très personnelles. Vous rappelez votre famille, vos frères, vos sœurs, toute la vie là-bas. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est déclenché au-delà de ce que vous nous racontiez au début de notre rencontre, l'auditeur qui vous invite à écrire. Mais une fois qu'on a dit ça, il a fallu poser les histoires, l'histoire et la lettre à écrire.
Oui, enfin, c'est toujours là, depuis le début. Depuis le début du questionnement pour moi. Donc, j'ai écrit. Ça fait 40 ans que je publie. J'ai eu le temps d'y penser et d'écrire. On a déjà cité les titres. Et cette lettre, pour moi, est une sorte de livre testamentaire. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Mon fils a vu Sébastien, il a vu la photo de couverture.
Oui, c'était...
Il m'a dit, tu n'aurais pas dû mettre cette photo. Et je dis, ah bon, pourquoi ?
C'est une photo de couverture avec votre père, elle date de... On vous voit
90,
tous les deux en train de boire un thé.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est une photo qui est... Qui, qui est située en Dordogne, là où oui, vous avez
qui est le pays
vécu
ma mère,
aussi, et elle date de 1991.
Oui, bon. Donc.
Mais c'est une photo forte, hein, vous et votre père, dans un verre de thé. Là, on a l'impression qu'il va vous raconter.
Oui, ce qui n'est pas le cas.
Oui, ouais, ben, on comprend bien en lisant le livre que ce oui, n'est pas autour d'un thé qu'il vous a raconté, parce qu'il vous a peu raconté, justement.
Non, mais mon fils n'était pas content, parce qu'il a trouvé que je mettais l'intimité de mon père, sans l'autorisation de mon père, naturellement, en place publique.
Ça vous a renvoyé au reproche, si je peux le dire ainsi, que vous faisiez votre mère quand vous aviez écrit sur votre père.
Oui,
ça y ressemble.
J'ai l'impression. Oui, oui. J'étais étonnée. J'étais étonnée de cette réaction.
Alors, qu'est-ce que vous lui répondez à ce moment-là?
Non, je lui dis que, de toute façon, c'est mon choix.
Ouais.
Que ce sera ce que ce sera. C'est-à-dire que cette photo sera en couverture. Et
alors, quand il voit le livre, votre fils ou d'autres, la famille, et qu'il voit qu'il y a un très beau cahier photo, hein, autour de photos, voilà, de situations quotidiennes, cartes postales coloniales, justement, dont on a parlé, mais il y a des photos familiales.
Oui.
Il y a des photos privées, là. Il s'étonne, là aussi.
Non. Non? Non. Non, non. Non, non, parce que je l'ai déjà fait. Dans d'autres livres, il y a des photos dans les carnets de voyage, Mes Algéries en France, Journal de Mes Algéries en France. Enfin, il y a déjà des photos familiales. Mais dans l'un de ces livres, j'ai mis des photos d'enfance que mon père prenait. C'était pas des photos interdites. Et l'une de mes sœurs m'a dit, tu m'as pas demandé l'autorisation. Je dis, pourquoi il faudrait l'autorisation? Je veux dire, c'est des photos qui peuvent être vues par tout le monde. Elle n'était pas contente. Alors, quand on écrit et qu'on veut publier, il faut surtout pas en parler à la famille. C'est un conseil que je donne.
Sur ce que vous écrivez aussi dans cette lettre à votre père, Leïla Sebar, il y a tout ce que vous avez construit autour de cette double appartenance, y compris dans vos relations, et je voudrais dire que vous me parliez de la complicité, ou je ne sais pas comment on l'a dit, enfin, la grande amitié que vous avez avec Nora Asfal,
oui,
qui est une conteuse, qui est venue plusieurs fois ici nous conter justement au travers ses publications. Vous parlez d'elle, plusieurs fois vous parlez d'elle, elle fait partie aussi de votre vie par rapport à ce qu'elle porte, elle, d'Algérie, des hauts plateaux, et puis vous aussi. C'est important de rappeler cette relation que vous avez avec cette conteuse.
Oui, oui, j'ai une complicité très, très forte avec Nora Asfal, de même que j'ai une grande complicité avec Isabelle Hébérard, que je n'ai jamais rencontrée.
C'est un autre livre, c'est un autre rendez-vous avec vous, j'espère.
Et j'en parle, j'en parle aussi, dans ce livre, et j'en parle très souvent. Et comme je le dis, ce sont deux personnes qui m'ont permis de me rapprocher de l'Algérie. Nora, par les contes des hauts plateaux, puisque c'est une conteuse bilingue, et qui conte magnifiquement, et qui m'a appris quelque chose. J'ai découvert quelque chose grâce à Nora Asfal. Et Isabelle Hébérard aussi. Je l'ai rencontrée dans ses textes, je l'ai rencontrée à travers ses photos, et j'ai avec elle aussi cette affinité très forte qui m'a permis de regarder et d'aimer une certaine Algérie.
Isabelle Hébérard, c'est une femme inspirante pour vous?
Ah oui.
Oui.
Ah oui.
Bien sûr.
Oui. Oui, j'ai écrit beaucoup de textes, de récits et de nouvelles.
C'est le livre qui est paru aussi aux éditions Bleu Autour, Leïla Sebar et Isabelle Hébérard, puisque vous y avez fait un certain nombre de nouvelles, hein, cette publication de nouvelles avec des très belles illustrations d'ailleurs.
Oui, des aquarelles. Peintures,
des aquarelles
de Sébastien.
Autour de portraits oui. d'Elisabeth.
Avec un commentaire de Manon Payot qui est important.
Hein, parce spécialiste que c'est pas seulement une femme, une oui. spécialiste d'Isabelle Eberhardt. Lettre à mon père, juste, on aurait longtemps à en parler encore, parce que un lettre à mon père, je le dis sans maladresse, c'est votre histoire, mais ça peut être l'histoire de beaucoup de femmes, de l'immigration, issues d'immigration, qui portent un rapport aussi important avec, avec le père.
Je crois. Hein? Moi, je crois. Enfin, la France est un pays d'immigration, on le sait, et depuis longtemps. Et les enfants nés de ces immigrations sont dans la même situation que moi.
Un père taiseux qui ne transmet pas, qui ne raconte pas.
Non, pas forcément le père qui ne parle pas. Bon, bien sûr, il y a les silences de l'histoire aussi. Mais il y a cette double appartenance. Les enfants des Russes du début du XXe siècle qui sont nés ici, qui ne parlent pas le russe et qui ont des grands-mères russes avec lesquelles ils ne peuvent pas communiquer. Et ce n'est pas seulement l'immigration russe, c'est toutes les immigrations successives et, pour ce qui nous concerne, les immigrations maghrébines qui sont très importantes en France.
Hein? Bien sûr.
Et les enfants sont aussi dans ce double questionnement, tout le temps.
Bien sûr. Non ? Oui, oui, bien sûr.
Et oui.
Leïla Sebar, Lettre à mon père, une fois le livre fermé, le livre fini pour l'auteur, fermé pour le lecteur, pour vous, c'est plus le lecteur, il retrouvera quelque chose, ça, oui. il apprendra quelque chose, mais vous, vous vous sentirez, si je dis apaisé, c'est, ça vous... Vous l'entendez ou vous pensez que voilà vous êtes sereine d'avoir fait cette lettre à votre père?
Non, je suis contente de l'avoir écrit, de l'avoir publié, parce que je ne l'aurais pas fait sans la proposition de l'éditeur. Mais quand je dis c'est un livre testamentaire, ça veut quand même dire et ça suppose que ce serait le dernier. Donc pour un écrivain dire c'est mon dernier livre, c'est quand même difficile.
Moi je dis pas que c'est votre dernier livre.
Non, mais moi quand je dis ça.
À vous. Non, vous avez la plume facile et voilà et vous il y a d'autres livres qui surgiront, je n'ai aucun doute là-dessus sur ce qui vous traverse, vous l'avez dit hein, en début d'émission, vous vous rappelez que vous l'avez dit comme ça, je ne peux parler que de ça ou quelque chose qui ressemble à ce que je viens de dire. Mais bien sûr qu'il y aura d'autres écrits sur votre réflexion de manière romanesque ou essais qui reviendront dans votre plume. Je dis plume parce que justement, c'est bien à la plume que le livre se termine autour d'un très beau texte pour mémoire que vous avez écrit et qui est justement qui est un texte que vous avez écrit et que vous n'avez pas lu lors de les cérémonies le jour de la disparition de votre père. Leïla Sebar, Lettre à mon père, le livre vient de paraître aux éditions Bleu Autour. Merci d'être venue à Beurre FM ce dimanche matin,
merci.
Leïla,
merci
de présenter votre livre. Je rappelle l'autre livre qui est paru dans cette même période, Leïla Sebar et Isabelle Eberhardt. C'est un recueil de nouvelles, un livre préfacé par Manon Payot qui est paru aussi aux éditions Bleu Autour. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.